Comme promis un petit peu plus tôt ce matin, on jase avec le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Quelquefois en personne en studio avec nous, si on aime bien ça. Quelquefois au téléphone, c'est le cas ce matin. Monsieur Nadeau-Dubois, bon matin.
Bon matin.
Toujours un plaisir de vous avoir à l'émission et de jaser avec vous. Comment s'est passée votre saison estivale?
J'ai bien passé beaucoup de temps avec la petite. Ça fait du bien de passer du temps en famille, de recharger les batteries, n'est-ce pas?
Oui.
La politique, c'est un sport exigeant. Alors, ça fait du bien de prendre un peu de vacances. Mais là, on est de retour, puis on a du gros pain sur la planche.
Puis, très important de passer du temps de qualité avec nos ouais. enfants, parce que sinon, on le sait, la vie va vite. Monsieur Nadeau-Dubois, commençons, direct, on saute dedans. Démission de Pierre Fitzgibbon du côté de la CAQ, comment on voit ça et on vit ça chez Québec solidaire?
Moi, je vous avoue que, bon, d'abord, j'ai été surpris comme tout le monde. Hein. On n'aurait pas entendu de rumeurs d'un départ aussi rapide que ça. Ça nous a pris par surprise. Et puis, c'est assez particulier là, ce qui s'est passé. Hein. Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'on attendait un fameux projet de loi sur l'avenir énergétique du Québec. Parce que là, ce qui s'en vient, c'est un méchant défi avec moins d'électricité disponible à Hydro-Québec. Notamment parce que M. Fitzgibbon en a vendu pas mal aux grosses compagnies de batteries et aux autres grandes multinationales à qui il a vendu de l'électricité, mais en même temps, des besoins en électricité qui vont exploser. Hein. On veut électrifier les transports, on veut faire le virage vers une économie verte, mais on se retrouve avec moins d'électricité que à peu près jamais là, dans les derniers 10 ans. Alors, c'est toute une équation à résoudre. On avait hâte d'en débattre. Ça faisait plus d'un an qu'on attendait le dépôt d'un projet de loi. Et là, on allait commencer à étudier ce projet de loi-là la semaine prochaine. Et là, on apprend, au début de la semaine, que M. Fitzgibbon lève les feutres et décide de s'en aller. Ça nous a beaucoup surpris et ça déstabilise complètement, en fait, ce grand débat de société qu'on était censé avoir. C'est pour ça que nous, on dit, ben là, il faut prendre un temps d'arrêt, il faut profiter du départ de M. Fitzgibbon pour faire les choses dans l'ordre, prendre une pause avec ce fameux projet de loi en énergie, prendre le temps de bien consulter les gens, parce que Pierre Fitzgibbon, les gens, je pense, avaient appris un peu à le connaître. C'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup la consultation et le dialogue. Hein. C'est quelqu'un qui fonçait un peu dans le tas, et quand on n'était pas d'accord avec lui, on était mieux de se tasser. C'est pas quelqu'un qui créait des consensus, c'est plutôt quelqu'un qui faisait les affaires dans son coin et à sa manière. Et dans le débat sur l'énergie, c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va discuter avec les Québécois et les Québécoises pour avoir un vrai débat de société pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans les 20 prochaines années avec notre électricité, qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Québec. Est-ce qu'Hydro-Québec, ça doit devenir une espèce de dollarama de l'énergie qui vend les mégawatts aux grandes entreprises, ou est-ce que ça doit être, d'abord et avant tout, une institution au service des Québécois, Québécoises, pour nous garantir une électricité à bas coût et nous aider dans notre transition énergétique? C'est un peu ça le grand débat de société qu'il faut avoir.
Donc, je comprends bien, M. Nadeau-Dubois, ce que vous réclamez, c'est qu'on mette fin au projet de loi, donc qu'on n'est pas en commission parlementaire à compter de mardi, puis qu'on revoie tout le processus.
Il faut notre demande, c'est de retirer le projet de loi, le temps de faire une vraie consultation, de parler avec les Québécois, les Québécoises, et aussi les industries qui s'inquiètent beaucoup là, de ce projet de loi-là, qu'on veut nous faire adopter, alors que la personne qui l'a écrit n'est plus là. C'est quand même pas rien. Et un projet de loi qui est déjà très, très, très critiqué, parce qu'il n'y a pas eu cette vraie consultation des Québécois Québécoises pour savoir, dans les 20 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait avec notre électricité, qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie.
Vous pensez quoi de la nomination de Christine Fréchette maintenant à titre de super ministre?
Ben, c'est la 5e ministre de l'Éducation, de l'Immigration en 6 ans pour la CAQ. Donc, il y a eu beaucoup de roulements dans ce ministère-là. La vérité, c'est que le résultat, là, on a un ministère de l'immigration, on a un système d'immigration qui est brisé. Hein, l'immigration temporaire a explosé. Il y a des délais dans les programmes d'immigration, notamment pour le regroupement familial. Là. Ça, c'est des Québécois, c'est des Québécoises qui ont la résidence au Québec, qui veulent faire venir leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants. Les délais dans ce programme-là sont rendus épouvantables. On parle de plus de 2 ans de délai. C'est vraiment inhumain pour les gens. Donc, notre scène d'immigration, il est brisé parce que la CAQ a eu une approche très idéologique avec l'immigration. Donc, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, c'est qu'on tourne la page sur cette idéologie-là et qu'on ait un ministre de l'immigration qui va vraiment travailler de manière pragmatique, réaliste, pour faire fonctionner notre système d'immigration, parce que c'est important pour le Québec, il faut bien faire les choses, il faut tourner la page vraiment sur l'approche idéologique des dernières années.
Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, on va sauter dans un sujet qui intéresse beaucoup votre parti depuis longtemps, mais on dirait que depuis cette semaine, ou du moins depuis quelques semaines, on en parle énormément, notamment avec une lettre là, qui est parue dans les médias, c'était plutôt cette semaine. Le civisme commence par un ventre plein. Puis dans cette lettre-là, on peut lire de vous et de Ruba Gazal également de Québec solidaire, que pour l'aile jeunesse de la CAQ, la priorité, c'est le retour d'une culture du civisme en imposant le vouvoiement des profs et le port de l'uniforme, mais que c'est étonnant que... leur silence sur l'éléphant dans la pièce est étonnant, soit celui que tous les enfants puissent manger à l'école. J'ai été surpris qu'on s'attaque comme ça à l'aile jeunesse d'un parti. C'est rare qu'on voit ça. Puis on va revenir sur l'essentiel du message que vous voulez, mais s'attaquer à l'aile jeunesse d'un parti comme ça, c'est-tu la bonne façon de faire?
Ben, je ne sais pas si c'est une attaque. Nous, on trouvait ça intéressant de voir les caquistes faire des propositions en éducation. C'est sûr qu'on a trouvé ça un petit peu surprenant de voir que la priorité... de ces militants de la CAQ, c'était pas de parler de l'égalité des chances, de la pénurie de professeurs, ou du fait que les enfants dans nos écoles, 1/5 a le ventre vide. On nous parlait de discipline, de vouvoiement, d'uniforme. C'est pas inintéressant. Vous savez, moi, ma blonde est prof dans la vie. Je le sais, là, que c'est un vrai problème dans bien des classes, dans bien des écoles. C'est une préoccupation qui est louable. Mais c'est un peu particulier de mettre ça de l'avant alors qu'il y a des problèmes, il y a des enjeux de base qui sont pas encore réglés dans nos écoles. Un enfant sur 5, il a le ventre vide, ça sera jamais des enfants disciplinés, ça sera jamais des enfants qui vont bien apprendre, c'est juste pas possible. Hein, moi, quand j'étais animateur de camp de jour dans ma jeunesse, on me disait tout le temps, Gabriel, rappelle-toi de la pyramide des besoins, hein. Quand les besoins de base sont pas comblés, notamment le fait de manger, ben c'est dur après ça de demander aux enfants d'apprendre et d'être disciplinés. Donc cette lettre-là, c'était une réponse aux jeunes caquistes en disant ben, c'est pas inintéressant de parler de discipline et de civisme, mais peut-être que la première étape, c'est simple, mais ça devrait peut-être être que nos enfants aient le ventre plein sur les bancs d'école.
Bien, justement, vous l'avez mentionné, 1 enfant sur 5 dans les écoles a faim, justement. Puis on lève le flag depuis quand même, me semble, des années là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire pour, une fois pour toutes, régler ce grand problème-là, il faut le dire, et est-ce que c'est réalisable?
Ouais, je pense que la première chose qui est importante de rappeler, c'est une situation qui s'empire. Hein. Mm-hmm. À cause de la crise du logement... À cause de l'explosion du coût de la vie, des prix à l'épicerie, il y a de plus en plus d'enfants au Québec qui ont faim. Il y a de plus en plus d'enfants dans nos écoles qui ont faim. On est rendu à 1/5 sur les bancs des écoles québécoises qui ont le ventre vide. Puis vous connaissez l'expression, hein? Un ventre vide n'a pas d'oreille. Ces enfants-là, leur réussite éducative, là, considérablement compromise par le fait qu'ils ont faim. C'est injuste aussi parce que ces enfants-là n'ont pas choisi de naître dans une famille avec moins d'argent. Hein. Ça, c'est le hasard qui décide ça. C'est le hasard qui décide dans quelle famille moi je suis né. C'est le hasard qui décide dans quelle famille vous êtes né. Et quand tous ces enfants-là arrivent sur les bancs des écoles publiques, ben le travail de l'école, ça devrait être le plus possible d'égaliser les chances entre les différents enfants. Et ce que la plupart des pays développés dans le monde ont fait, c'est de mettre en place des programmes d'alimentation scolaire pour s'assurer de donner un minimum aux élèves pour qu'ils puissent bien apprendre. En fait, le Canada, c'est le seul pays du G7 où il n'y a pas de programme national d'alimentation scolaire. C'est quand même pas rien. Aux États-Unis, maintenant, il y a 8 États, notamment le Minnesota de Tim Walz, le nouvel ami de Kamala Harris.
Ouais, le colistier.
Exact, qui fournissent des repas gratuits aux enfants à l'école. C'est une manière de favoriser l'apprentissage de tout le monde sans stigmatiser personne. Puis c'est aussi une manière de s'assurer que, comme société, bien, on ne perd pas de talent. Parce que ça, il faut toujours se le rappeler, hein. S'il y a 20% des enfants qui ont faim, entre vous et moi, ça veut dire que ces enfants-là, ça va être compliqué pour eux autres de réussir à l'école. Je ne dis pas que c'est impossible, mais tant qu'on a eu des enfants ou on a déjà gardé, c'est bien qu'un enfant qui a le ventre vide, qui a faim, pas vrai qu'il va apprendre aussi bien que son petit voisin ou sa petite voisine là, dans la classe. C'est non, juste pas vrai.
En effet, puis là, on embarque dans le cercle de défavorisation.
Oui,
c'est ça, on embarque dans le cercle de défavorisation. Ces gens-là, on ne développe pas le talent, donc des emplois moins rémunérés. Puis là, ça se transmet de génération en génération. Je trouve la proposition hyper bonne pour avoir déjà travaillé dans des milieux défavorisés. Je me demandais, est-ce que vous avez l'appui des autres partis d'opposition? Puis comment on fait ça dans un Québec qui est déficitaire de 11 milliards, ce programme-là?
C'est un programme qui coûterait entre 400 et 700 millions, selon les modalités qu'on choisit. Est-ce qu'on veut un programme qui est 100% gratuit? Est-ce qu'on veut permettre, par exemple, une contribution volontaire des parents? Dans certaines écoles, c'est des systèmes qui existent déjà. Donc, selon les modalités qu'on choisit, on parle de 400, 700 millions. Donc, c'est vrai que c'est de l'argent. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens de ne pas faire ça? Dans un contexte où on a un taux de décrochage qui est très élevé à l'intérieur du Canada, dans un contexte où aussi on sait que chaque dollar qu'on investit en alimentation scolaire rapporte entre 3 et 10 dollars de retombées économiques, est-ce que c'est une dépense? Est-ce que c'est de l'argent qu'on pêche par les fenêtres? Ou est-ce que c'est un investissement? Moi, je pense que c'est un investissement. Et honnêtement, j'aurais envie de poser la question à M. Legault. Faites-moi une liste, là, de 3 dépenses publiques plus importantes que de s'assurer que sur nos bancs d'école, nos enfants aient le ventre plein.
C'est une bonne question.
Je la vois pas, moi, la liste interminable de choses qui sont tellement prioritaires par rapport à tout simplement s'assurer que dans une société aussi riche que le Québec, on s'assure tout simplement.
Northvolt passe pas avant les jeunes qui ont faim, M. Nadeau-Dubois?
Non, mais moi, ça fait pas ma shortlist. Je sais pas pour vous autres. Moi, ça fait pas ma shortlist. C'est la base. Pour moi, c'est la base, la base, la base. C'est le genre d'affaires qu'on aurait dû faire il y a 20, il y a 30 ans. Quand on a fait les CPE, là, on s'est pas posé la question. On a dit, on va donner un repas à tout le monde. Ça marche. Est-ce que ça marche bien dans les CPE? Absolument. Est-ce que c'est pratique pour les parents? Moi, j'en ai une. Ma fille est en CPE, je peux vous dire que c'est pratique là, de ne pas avoir à faire de lunch. Puis on a comme arrêté à l'étape du primaire. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des pays développés font mieux que nous sur ces affaires-là. Moi, je pense qu'on est capable de construire un consensus avec les autres parties là-dessus.
Gabriel Nadeau-Dubois, on aime vous jaser politique. On aime vous jaser musique et sport aussi. J'ai une question dans les deux domaines. De un, est-ce que vous avez suivi le grand retour de Linkin Park?
Non, moi, je vais être bien honnête, c'est pas ma tasse de thé. Donc non, j'ai pas vu ça passer. Je suis vraiment
Aucun problème, c'est une grande annonce hier. Il y a maintenant une chanteuse qui s'est joint au groupe. Vous allez pouvoir écouter la nouvelle toune en ligne. Question sport. Qu'est-ce que vous pensez de Patrick Laney qui arrive chez le Canadien?
Ah, j'étais énervé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte qu'une saison du Canadien de Montréal commence comme ça. J'ai été, moi, séduit par les choix au repêchage au début d'été, avec Demidov, avec Michael Hage. C'est des talents potentiels absolument excitants. Et là, le coup de tonnerre au milieu de l'été, Patrick Laine qui s'en vient à Montréal, je trouve que c'est un risque qui est calculé puis qui est peu coûteux de la part de Kent Hughes. Quel bel échange! Franchement, ça force l'admiration. Ça vient combler un trou béant dans le top 6. Hein. Il y avait vraiment un trou sur les deux premiers trios. Là, on l'a trouvé. Si ça marche pas, ben ça marche pas. C'est deux années où, de toute façon, on n'est pas en voie de gagner la Coupe Stanley. Et si ça marche, ben ça accélère considérablement la reconstruction. Franchement, je suis excité. J'ai hâte que la saison commence. Je pense que Kemp Hughes est en train de reconquérir le cœur de bien des fans du Canadien qui ont eu la vie dure dans les dernières années. Hein. On n'a pas été gâtés. Là, on sent qu'il y a un plan, une reconstruction qui se fait de manière méthodique, étape par étape. On a commencé par la défense. Là, on ajoute du talent en avant. Franchement, c'est très, très excitant.
Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que Max Larouche travaillait avec nous, était un fan des Sénateurs d'Ottawa, puis là, il est devenu un fan du Canadien.
C'est rare que je suis autant en accord avec Gabriel Nadeau-Dubois. on va le dire comme ça.
Je ne sais pas comment vous avez fait pour être fan des Sénateurs d'Ottawa, j'aurais jamais été capable de faire ça, mais la comparaison est intéressante. On voit qu'il y a un plan avec le Canadien de Montréal qui est méthodique. Ils sont en train de nous monter tout un club. Évidemment, ça reste dans le domaine du potentiel, hein? Fait que va falloir que l'arbre donne des fruits, mais il y a vraiment un travail de Kent Hughes que je le trouve fascinant à regarder aller. Ouais. Comment il est en train de construire cette équipe-là. C'est moi, comme fan du Canadien, avec l'âge que j'ai, moi j'ai jamais vu là, une équipe se construire comme ça sous nos yeux de manière aussi méthodique. Je trouve ça impressionnant. Puis c'est excitant. Je pense que je suis pas le seul de ma génération à dire « Ah, enfin, on est en train de mettre les bases d'un club gagnant », ce que nous, on a presque jamais vu, là.
Ouais,
à part le petit épisode là d'il y a trois ans, là, où ils sont allés en finale en pleine pandémie, on se demandait vraiment s'il y avait leur place là, alors que là, on a vraiment l'impression qu'il y a des bases solides qui sont en train d'être mises pour le club. C'est vraiment excitant.
Gabriel, es-tu excité de voir Lane Hartson au Centre Bell pour l'année au complet?
Ben là, on l'a vu deux games, puis on était collés au plafond. On a hâte de le voir au Centre Bell cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, sur l'avantage numérique, quelque chose qui ressemble à un corps arrière aussi dynamique et aussi excitant. Moi, je me rappelle des belles années de Sheldon Surrey. On a eu Piqué Subban il y a quelques années, oui. André Markov, mais depuis cette époque-là, Jeff Petrie a donné des bons services. Mike Matheson, on l'aime beaucoup, mais aussi excitant que ça, ça fait un moment. Donc oui, bien hâte de voir les notes en action.
On l'avait dit qu'on allait en profiter pour jaser un peu de sport lors de nos jasettes, hein?
J'espère.
Voilà, c'est fait. On va garder cette tradition-là. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, merci infiniment pour votre temps.
Ça m'a fait plaisir, messieurs.
À bientôt. Salut. Bonne journée puis bonne saison du CH.
Merci, vous autres aussi.
Au revoir.
La passion, hein, il est parti.
C'est l'enfer.
Puis, j'ai l'impression qu'il aurait parlé pendant une heure.
Ah, c'était vraiment cool. Il était avec Lane Hartson. On l'a vu deux games, on était dans le plafond. Puis non,
d'après moi, peut-être même que pour lui, sur sa liste de priorités de vie, le Canadien est devant les enfants qui mangent dans les écoles.
Ah,
c'est pas peu dire.
Pas ça. Ouais. Non, je pense pas. Mais c'est peut-être dans son top 3, par exemple.
Ah, c'est que ça, je pense que c'est dans son top 3.
Mais Max Larouche, en accord avec Gabriel Nadeau-Dubois.
Ouais.
Les deux fans du Canadien finis.
Ouais.
J'irai voir une game avec mon chum Gab.
Là, l'invitation est lancée.
Avec leur chandail de Cole Caulfield numéro 13 qui viennent de s'acheter.
Un 13 puis un 22.
Ouais.
Non, moi, ça serait un chandail de Lane Hudson. C'est lui qui m'a ramené.
Aïe.
J'adore.
Bon. Hey, on s'amuse. On est déjà dans la troisième heure de Rage Against le matin. Bon vendredi. Merci d'être bien branché à Boulevard. On est avec vous jusqu'à 10 heures. Courte pause dans la prochaine heure. Entre autres, l'ultime combat des tounes. Et surprise, Max va choisir une toune de Lolo. Ah non, excuse. La nouvelle de Linkin Park. Rage.